Des souvenirs d'une enfance heureuse et joyeuse aux premières expériences dans la tech, on sent, en écoutant Amélia Matar, que chaque journée de son quotidien est colorée par cette vision ambitieuse et exigeante de ce qu'est l'enfance. Co-fondatrice de Coloris, elle parcourt la France en long, en large et en travers depuis 2018 pour éduquer les kids au numérique sans écran. Et oui, convaincue que c'est par des apprentissages pratiques et ludiques que l'on éveille l'esprit de la jeunesse aux sciences, aux mathématiques et au monde numérique de demain, Amélia porte ce projet sans relâche et apporte une façon positive de voir le monde et de transmettre. Femme de talent à l'énergie débordante, elle est lauréate du Bol Future Award en 2021 et du palmarès Giverny Le Point. Son premier roman, Ainsi naissent les mamans, publié chez Erol Roman, questionne les liens de la famille et de la transmission. Une rencontre solaire. Merci Amélia pour ta générosité et ta gentillesse. Bonne écoute. Bonjour Amélia.
Bonjour Julie.
Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Les Négociatrices.
Bah merci pour ton invitation, je suis hyper contente.
Moi aussi, je suis ravie qu'on prenne ce temps-là. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter, nous donner ton prénom, ton nom, ta situation de famille, si tu souhaites, d'où tu viens, les études que tu as menées et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui ?
Eh bien, je suis Amélia Matar, je suis mariée, j'ai deux enfants de 4 et presque 10 ans. Je viens de Bondy et j'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité dans ce contexte. À l'époque on disait ZEP, maintenant on dit REP. Et puis par la suite, je suis rentrée à Grenoble École de Management. Avant ça, j'ai fait un doc de lettres modernes, c'est important de le préciser. Et j'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la tech notamment, et j'ai fondé Coloris en 2018.
Alors Coloris, tu vas nous en parler un peu en détail. Mmh. Tu nous dis, j'ai grandi dans ce qu'on appelait à l'époque les ZEP, les REP. Est-ce que toi, quand tu étais petite, c'était une réalité de nommer ça comme ça, ou finalement ça n'avait pas d'impact ou d'incidence pour toi ?
Si, clairement, c'est un contexte, notamment avec du recul, je me rends compte, qui était très particulier d'un point de vue sociodémographique. Mm-hmm. C'est un contexte violent, très clairement. Des accidents assez graves parfois aussi. Donc oui, clairement, c'était une réalité très tangible pour moi, ouais, en tant qu'enfant.
Et alors toi, dans cet environnement-là, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Amélia quand Amélia est une petite fille ? Comment elle voit la suite ? Comment elle rêve le futur ?
Bah, clairement, moi j'avais vraiment toute petite l'envie d'en sortir, l'envie de progresser, de pouvoir prendre ce qu'on appelle l'ascenseur social, même si moi je le nommais pas comme ça enfant, mais avec cette idée effectivement de progression, quoi, de réussir à cheminer. Il y avait cette envie d'ailleurs.
Et avec une idée précise, tu vois, tu te disais quand je serai grande, je ferai ça ou ça, ou en tout cas, tu savais juste que tu voulais, et puis peu importe comment ça se produirait.
Je suis passée par plein de métiers. Mon papa est professeur de plongée, moniteur de plongée. Donc à un moment, je voulais être monitrice de plongée. Après, je voulais être océanographe. Mais j'ai mis très très longtemps finalement à véritablement savoir ce que j'avais envie de faire.
Et quand tu nous dis doc de lettres. Ouais. Comment ça s'est décidé, ça, dans ce parcours-là ?
Clairement, la littérature, notamment à l'adolescence, ça a été vraiment pour moi une béquille dans ma vie, voilà, un soutien, un refuge. Et quand il a fallu choisir justement des études, je ne savais pas exactement vers quel métier j'avais envie d'aller, mais je savais que j'avais envie d'être au milieu des livres et de pouvoir aller plus loin dans ma compréhension des textes. Donc ça a été assez naturel d'aller vers les lettres.
Donc vers les lettres ? Première expérience universitaire d'études secondaires. Et alors là, comment tu, dans ta jeune vie d'adulte, comment tu appréhendes tout ça ? Est-ce que ça répond à ce que tu t'es imaginé, à tes attentes, à tes envies ?
Clairement, non, je ne savais toujours pas ce que j'avais envie de faire. Je n'avais pas spécialement envie de devenir prof de lettres.
Oui, c'est ça, parce que ce genre de cursus, tu n'as pas non plus beaucoup de débouchés.
Je pense que j'avais déjà envie d'écrire et j'avais déjà ce goût très prononcé pour l'expression écrite. Et j'ai choisi de rentrer dans une école en alternance initialement très moyenne, peu connue. Et c'est dans cette école que je me suis rendu compte que, en fait, les écoles de commerce étaient classées. Enfin, toutes les écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. étaient classées. Je n'avais pas du tout connaissance des classements, des prépas. Alors, je pense qu'aujourd'hui, même quand on vit en banlieue, on a plus accès à ces informations-là. Mais moi, à mon époque, pas du tout. Et en prenant conscience de ce classement, je me suis dit non, mais c'est pas possible de rester dans cette école qui n'était pas du tout, pour le coup, dans ces classements et qui était vraiment moyenne, voire mauvaise. Et j'ai pris connaissance du concours Passerelle, donc un concours qui est ouvert aux élèves qui ne sont pas issus de prépa. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Grenoble École de Management en candidatant sur une épreuve de littérature via Passerelle. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée en école de commerce avec l'idée d'être encore dans un cursus assez généraliste parce que je ne savais toujours pas ce que j'avais envie de faire de ma vie.
Eh bien oui, c'est tellement pas évident quand on est jeune comme ça. Bah oui. Et ça, alors, l'école de commerce, donc c'est quand même un monde avec l'université, finalement. Ça, oui. Tu as trouvé ta place, ça correspondait à tes attentes, là, cette entrée en matière-là?
Oui, alors, je sais que pour pas mal d'élèves, il y a un côté un peu déceptif quand on entre en école de commerce parce que on est sur des matières qui sont peut-être plus pragmatiques, plus en lien avec l'entreprise. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça assez formidable. Puis Grenoble École de Management, c'est vraiment une très chouette école. Le bâtiment en tant que tel est vraiment impressionnant.
Ouais, donc, le site.
Moi, j'avais le sentiment de vraiment monter une vraie marche à ce moment-là. Je me suis fait des amis qui sont restés toujours mes amis aujourd'hui. Enfin, voilà, c'était vraiment une époque très réjouissante pour moi.
Oui, tu sentais que tu crantais en fait, finalement, toi qui étais alimentée comme ça par l'envie d'aller voir autre chose, de conquérir d'autres territoires. Là, ça y est, ça répondait à cet appétit-là de découvrir. Et là, est-ce que ton choix vers ta suite professionnelle s'affine un peu au fil des rencontres, des professeurs, des matières?
Toujours pas.
Toujours pas. Donc là, on est dans les années 2000, j'imagine. On est à peu près.
C'est ça, ouais. Moi, je suis sortie de l'école en 2008.
D'accord, ouais.
Non, toujours pas. Et même diplômée, j'avoue, j'étais un peu paumée. Mais je commençais à avoir le goût de l'entreprise, enfin, dans le sens entreprendre. Et donc, je commençais déjà dans ma tête à faire des BP, enfin, pas que dans ma tête, à mettre sur plan aussi des BP, des DEC, imaginer des entreprises que je pourrais monter.
Des business plans pour BP.
Voilà. Des business plans. J'ai rejoint à ce moment-là une start-up et ça correspondait là véritablement effectivement à une envie profonde d'être au tout début d'une aventure qui se monte. Donc et puis là dans les années 2010 c'était encore
c'était très nouveau. C'était très nouveau,
donc j'avais vraiment le sentiment d'être au cœur de quelque chose de assez avant-gardiste, quoi.
Et ça l'était, ça, pour le coup, c'était à la hauteur de cette réputation que ça pouvait avoir, la tech, les startups.
Clairement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un côté un peu moins enviable, la Startup Nation, ça a aussi une connotation négative aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, ça avait quelque chose de très brillant, de très attirant. Et oui, c'était très gratifiant.
Gratifiant.
Ouais.
Et c'était un stage, là, cette expérience?
Non, c'était
un premier job.
J'avais un poste très généraliste autour du marketing, du digital, aussi du produit, dans une start-up qui développait un nouveau produit tech qui mettait en lien les émissions télévisées à des jeux massivement multijoueurs, qui était avec une levée de fonds assez conséquente, une équipe tech très consistante, un vrai beau projet auquel j'ai pris part avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie.
Oui, et puis première expérience, donc en général on est aussi tout feu, tout flamme.
Oui, absolument.
Et ça, c'était où géographiquement? Cette expérience toujours à Paris. Donc après Grenoble, finalement, tu reviens à Paris et tu démarres ta vie professionnelle.
Oui.
Et ce premier poste, il va durer combien de temps?
Alors, il ne dure pas si longtemps que ça parce que clairement, la rentabilité n'était pas au rendez-vous et les investisseurs ont envie de couper les fonds, pour la faire courte. Mais ça a duré 2 ans.
D'accord.
Et ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans au sein d'une ONG internationale sur un poste digital. Donc, je m'occupais de toutes les campagnes menées en ligne pour mobiliser autour des questions et des grandes campagnes de cette ONG.
Donc, quand même, un grand écart un peu. On passe du monde de la tech, même si ton cœur de métier, ça reste le digital.
Ouais.
On comprend la valeur ajoutée. Mais en termes d'univers, ça t'a cheminé ou c'est l'opportunité qui s'est présentée à toi et qui t'a fait changer de secteur?
C'était clairement une opportunité qui m'était offerte. Après, peut-être étonnamment, c'était pas tant un grand écart que ça, parce que finalement, c'était des métiers assez similaires. C'était juste le sujet qui n'était pas le même. Mais l'enjeu, c'était véritablement d'attirer de nouveaux internautes, d'actionner des leviers marketing en ligne, de développer des produits qui puissent donner envie de s'engager. Donc, ce n'était pas la même finalité.
Ouais.
Et c'était une finalité que je trouvais plus noble. Mais on était sur des tactiques qui étaient assez similaires.
Oui, oui, oui. Le métier reste le même.
Ouais.
Et alors là, dans cette ONG, combien de temps tu restes là sur ce job?
Je reste presque 5 ans.
D'accord.
Et je suis invitée ensuite à rejoindre Numa, qui à l'époque était un accélérateur de start-up, qui depuis fait plutôt de la formation pour les entreprises, dans tout ce qui est transformation tech, etc. Et je prends un poste de direction marketing de cette structure pendant 2 ans. Et donc voilà, j'accompagne le développement de la structure, notamment à l'international, mais pas que. Et là, l'envie d'entreprendre, clairement, est à son comble, parce que je suis entourée d'entrepreneurs au quotidien.
Oui, c'est ça, parce que toi qui avais un peu cette petite graine-là, quand tu nous dis, je faisais déjà des business plans, des prêts avec des boîtes imaginaires, ça nourrit finalement ce goût-là, cette appétence que tu as.
Ah oui, clairement, ça ne m'a pas quittée pendant toutes ces années, et j'avais très très envie moi aussi de me lancer, mais c'est pas évident.
Oui, j'allais y venir. Comment on fait pour, tu vois, avec ce feu comme ça intérieur, se dire c'est pas le moment, c'est la bonne idée, c'est le bon moment, c'est la rencontre. Qu'est-ce qui à la fois freine et puis dit qu'un jour c'est l'heure?
Clairement, c'est très trivial ce que je vais dire, mais c'est pour ma part, en tous les cas, les conditions économiques qui étaient réunies pour y aller.
D'accord. Ce qui est important, finalement, parce que sans ça...
Voilà, c'était juste la possibilité de me dire, si ça plante, je ne me retrouve pas dans une situation compliquée. Mmh. Donc, y avait de ça. Il y avait aussi, clairement, l'aboutissement d'années de réflexion sur le sujet et d'être au cœur de ce réacteur de la tech et des startups parisiennes. Ça m'a vachement alimenté aussi.
Ouais. Et puis, ça t'a fait grandir parce qu'au final, tu es toute jeune à ce moment-là de ta carrière.
Oui.
Tu as dû apprendre. L'un n'empêche pas l'autre. On peut aussi se lancer et apprendre. Mais on sent qu'il y a presque cette phase d'incubation.
Oui.
et comment on en arrive où tu te dis, j'ai l'idée, c'est maintenant. Alors, est-ce que toi, tu as négocié avec toi-même pour se dire, à un moment, je quitte aussi ce que j'ai là pour me lancer? Comment ça s'est joué tout ça?
Clairement, oui, moi j'avais ce goût pour la tech depuis toujours. Alors ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, mais moi j'ai un papa très geek qui m'a donné ce goût pour les nouvelles technologies quand j'étais enfant. Et ça a été un peu, quand j'ai enfin compris que je me sentais bien dans cet univers tech, ça a été une réponse à effectivement ce goût qui est très profond, très ancré chez moi. Et en devenant parent, je me suis rendu compte que l'éducation, c'était aussi un sujet absolument passionnant. Donc, je me suis mise à lire énormément de livres, à me former, à me nourrir. Et finalement, l'éducation à la tech m'est venue un peu naturellement en me disant, mais il y a un trou dans la raquette, notamment pour les plus jeunes enfants. J'ai envie de proposer quelque chose. J'ai aussi observé qu'à l'international, il y avait plein d'initiatives, que la France... était assez pauvre encore en idées en la matière. Et voilà, j'en ai parlé autour de moi. Je voyais que les réactions étaient positives, même dans mon entourage proche. Les gens répondaient avec enthousiasme. Donc, je me suis dit, allez, testons.
Ouais, je tiens une bonne idée.
Oui.
Et donc là, et toi, est-ce que tu as souvenir à ce moment-là, intérieurement, tu vois, d'avoir une discussion avec toi-même, comme on a parfois quand on est sur le seuil comme ça de grandes décisions de vie?
Oui, clairement, c'est des phases d'excitation, de crainte, d'envie.
Beaucoup d'émotions.
D'émotions un peu contradictoires. On se dit, quelque part, je prends un des risques. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ce n'est pas juste une idée? Parce qu'une idée, c'est bien, mais c'est la mettre en œuvre, la concrétiser, attirer des clients. C'est tout ça qui importe, plus que l'idée en tant que telle. Donc oui, ça a été des heures de conversation interne, c'est sûr.
Mais au final, on retrouve ce goût d'y aller, ce goût d'avancer, ce goût de... Et ça, c'était en quelle année la naissance de Colori?
2018.
Et alors là, comment tu te jettes à l'eau concrètement?
Alors concrètement, c'est une rencontre qui a été assez déterminante avec Frédéric Bardot, qui est le fondateur de Simplon. Donc Simplon, qui est un organisme qui accompagne les personnes sorties de l'emploi ou qui sont un petit peu sorties du système dans des reconversions. reconversion dans la tech. Je lui pitche Colorie, qui à l'époque était 3 slides. Et il me dit, mais c'est une super idée, prends les clés de mes locaux, porte de Montreuil, et teste. Et effectivement, ça a été un conseil assez fondamental de me dire, en fait, ne fais pas de plan sur la comète dans des Google Sheets ou dans des Google Slides, teste sur le terrain.
En vrai.
Voilà, en vrai, et vois ce que ça donne. Et ça a été hyper riche d'apprentissage et surtout très énergisant, quoi, d'observer qu'effectivement, les enfants, les parents accueillent l'idée avec beaucoup d'enthousiasme, envie de revenir, envie de rester, encouragent à ce que l'idée se développe. Clairement, ça a été très énergisant.
Le catalyseur, finalement, de ton idée que tu portais, que tu nourrissais, que tu faisais grandir, là, on y était, parce que concrètement, tu vas nous en parler après, hein, de ce que Colorie vous faites au quotidien. Là, dans ces fameux locaux, tu mets des enfants, tu mets tes parents et tu déploies un atelier sur le thème du numérique sans écran. C'est la force de Colorie.
Voilà, clairement, Colorie, l'idée, c'était effectivement de proposer une éducation au numérique pour les plus jeunes enfants de manière totalement déconnectée, avec l'idée de pouvoir proposer une bulle de déconnexion pour mieux comprendre les enjeux de la connexion de tout le monde et de soi en tant qu'enfant aussi. Donc comprendre ce que sont les algorithmes, développer sa culture numérique, comprendre ce qu'est le numérique responsable, donc à quel point le numérique peut être profitable mais aussi risqué. Et effectivement, j'ai bricolé quelques activités, j'ai été chercher aussi des activités qui existaient déjà et j'ai monté un premier atelier. J'en ai monté même une petite dizaine expérimentaux qui ont été remplis tout de suite. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'idée plaisait et que les gens adhéraient. Les enfants étaient hyper enthousiastes, avaient envie de revenir. Et je me suis dit, bon, il y a un truc, il faut aller plus loin.
Ouais, il y a vraiment quelque chose. Et puis, c'était le mariage aussi très concret de tout ton parcours à toi dans le digital et dans ce monde tech que tu aimais tant, venu de ton papa. C'est marrant quand tu dis, c'est aussi la parentalité qui m'a amené à ces questionnements parce qu'on a le sentiment qu'il y a un enjeu de transmission finalement d'un sujet, toi, que tu as aimé, que tu aimes toujours et tu vois qui va compter pour les générations futures.
Oui, clairement, à cette époque, je fais le constat que les enfants sont aussi utilisateurs de numérique, que le numérique bouleverse complètement notre société, notre rapport au monde, le vivre ensemble, la façon de travailler, la façon de se déplacer, la façon d'apprendre. Et que je me dis, on ne peut pas passer à côté d'une éducation à ces sujets, en fait.
Oui. Donc, ça paraît fou, mais en vrai, ça n'est pas du tout traité par l'école, par les parents eux-mêmes qui souvent sont même dépassés par la technologie.
C'est ça, c'est qu'on vit aussi une époque très fulgurante par rapport à ces sujets. Ça avance très vite, il y a sans arrêt de nouvelles inventions, de nouvelles avancées. Donc on voit bien que beaucoup de parents sont dépassés par le sujet. L'institution, qui est une institution mammouth, qui a du mal à se déplacer, donc qui a aussi du mal à clairement se mouvoir sur ces sujets-là aussi, est un peu dépassée aussi. Là on sent que comme on dit dans la Startup Nation, il y a un product market fit, quoi.
Ok, on y est, quoi. On y est. Voilà. Et alors ça, on sent, tu testes, tu sens que ça prend, tu sens que c'est dans le bon sens. Et alors là, il faut aller négocier, non, j'imagine, en tant qu'une jeune femme qui déboule dans un jeune femme ou jeune homme, c'est pas le sujet, mais tu vois, il va falloir aller négocier. Là, comment tu te mets en ordre de marche, en ordre de bataille pour faire un effet de levier sur cette bonne idée testée qui a duré pendant.
Ça a pris plusieurs mois, clairement, d'imaginer un business model qui soit viable, qui soit intéressant, scalable, etc. D'autant que dès le début, moi, j'avais envie d'avoir une proposition qui soit la plus inclusive possible. Mmh. Et dans nos ateliers, on accueillait quand même beaucoup d'enfants CSP++, plus de petits garçons que de petites filles, parce que la tech, c'est quand même un sujet aujourd'hui préempté. Les ingénieurs aujourd'hui, c'est beaucoup des hommes dans ces sujets.
Ce qui a un impact aux religions, on parle assez régulièrement finalement, parce que ça reste une conception, bonne ou mauvaise, c'est pas le sujet, mais en tout cas qui est modelée par un regard, un rapport au monde, monde, un rapport aux autres et qui est un schéma imposé finalement, le fait qu'il y ait beaucoup de garçons.
Oui, oui, prenons trois minutes pour faire une parenthèse là-dessus parce que c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, en Europe, on compte moins de 1% de CTO. Donc le CTO, c'est le directeur ou dans un moins de 1% des cas, la directrice technique qui va décider effectivement des grandes orientations tech de l'entreprise. Et donc il y a moins de 1% CTO femmes en Europe. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 1% de décideurs technologiques sur des sujets qui concrètement ont un impact énorme sur la vie de millions, de milliards d'êtres humains sur Terre.
Mais oui.
Et oui, on sait qu'effectivement, cet attrait se joue très tôt, en fait. Mmh. Et que très tôt, les filles se détournent de ces sujets. Donc, on avait cette question aussi de comment on a une proposition économique qui permet de s'adresser à tous les enfants, peu importe le milieu social, peu importe effectivement qu'il s'agisse de petites filles ou de petits garçons. Et on a mis plusieurs mois à comprendre que finalement, les acteurs qui pouvaient nous aider à remplir cette mission, c'était les villes, les collectivités territoriales. Et donc aujourd'hui, Colori, clairement, travaille avec les villes, ce sont nos clients, qui nous permettent d'intervenir sur les temps périscolaires ou scolaires auprès des enfants scolarisés dans le public.
Public, donc sans différence finalement de catégorie professionnelle ou de niveau de vie et de genre non plus, puisque vous ne faites pas des ateliers que pour les petits garçons.
Non, on a une parfaite mixité dans nos ateliers, voilà, autant qu'elle peut l'être à l'école.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça démontre bien que les petites filles sont autant intéressées par le sujet dans les ateliers, en vrai.
Ah oui, oui, oui. Et on est à des âges, donc nous, on intervient dès 3 ans, et on est à des âges où la question de « je suis une fille, je suis un garçon » ne se pose pas
bien
du tout. La question, c'est « est-ce que je m'amuse ou pas ?» Et on observe que oui, les filles s'éclatent tout autant que les garçons.
Ouais, donc c'est des petites graines, ça, pour la suite aussi.
Ah oui, clairement.
Pour le futur.
Et là-dessus, on s'est appuyé sur les travaux d'Amanda Sullivan, qui est une docteure en sciences aux États-Unis, qui effectivement a observé à travers plusieurs expériences que l'introduction précoce de ces sujets auprès des filles développe leur appétence clairement pour ces sujets. Donc oui, oui, de ce point de vue-là, on a vraiment le sentiment de contribuer à ce qu'il y ait demain plus de femmes dans la tech. Ouais.
Bah, développe l'appétence et puis sans doute lève aussi des freins. Parce que finalement, le pas de goûter à ce sujet-là, d'entendre parler ou de le regarder est tout de suite accessible en fait. On n'est plus sur quelque chose de très loin qui ne nous concerne pas.
Oui, ouais, ouais, absolument.
Et donc toi, Colori, d'où vient le nom Colori ? C'est une question que je me posais.
Alors Colori, c'est la contraction de code logique et Montessori, parce qu'effectivement j'ai ce goût prononcé pour cette pédagogie, même si aujourd'hui Colori, ça va bien au-delà de cette pédagogie et qu'on s'est inspiré de plusieurs autres approches. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil pour dire que c'est tout de même une approche assez alternative de l'éducation, voilà, avec des principes qu'on ne retrouve pas forcément dans l'approche traditionnelle.
Et qui correspondent, j'imagine, à tes convictions, toi, en tant que parent, où tu fais confiance aux ressources naturelles des petits, finalement, et tu paries sur leur capacité à se saisir.
Oui, ben, y a plein de principes effectivement qu'on est allé chercher dans les approches alternatives. Le premier, c'est probablement celui de l'adulte bienveillant. Mmh. Alors c'est un peu aujourd'hui galvaudé comme expression de la bienveillance, mais nous on y croit vraiment. Enfin, et on le sait, hein, les études scientifiques le montrent. Le cerveau de l'enfant et même de l'adulte apprend beaucoup mieux dans un cadre bienveillant que dans un cadre stressant où voilà, on est dans la punition, la coercition, etc. Donc nous, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup auprès de nos animateurs et dans les formations qu'on délivre. Et voilà, parmi les autres principes qu'on est allé chercher, il y a celui du libre choix de l'enfant. Effectivement, quand on choisit librement une activité, on a beaucoup plus de chances qu'elle soit menée à bien, qu'on déclenche cette motivation endogène de l'enfant, donc qui est vraiment celle même qu'on ressent quand on est adulte, quand on est dans le flow de la création, etc., plus que la motivation exogène qui est déclenchée par les récompenses ou la punition. Voilà, donc il y a plein de petits principes comme ça qu'on est allé chercher et qu'on essaie d'appliquer au quotidien dans nos ateliers.
C'est passionnant parce que cette notion de flow dont tu parles, pour celles ou ceux qui ont déjà eu la chance de le vivre, c'est vrai que c'est un état qui est tellement satisfaisant et je trouve qu'il va au-delà de l'apprentissage. Alors là, on parle du numérique, mais qui booste l'estime de soi, qui va consolider la confiance, qui va impacter aussi notre rapport aux autres. Enfin, c'est très, très bénéfique. On est vraiment dans un cercle qui est très vertueux de libérer toutes ces énergies-là en plus chez les petits.
Ah bah moi, clairement, parmi les feedbacks qui me satisfont le plus, c'est toutes les fois où on a des enseignants ou des animateurs qui nous disent « Ah là là, mais je ne l'ai jamais vu concentré comme ça ». Enfin, moi, ça me réjouit au plus haut point.
Bien
je me dis, mais là, on a touché quelque chose de très profond, quoi.
Et on est en train de lui apporter, c'est un beau cadeau aussi finalement que de transmettre ça à un petit enfant.
Oui, au-delà du sujet en tant que tel.
Ouais. Alors là, on est en 2018, tu démarres Colori à fond, tu nous dis ça a pris des mois. Est-ce que dans cette phase-là, tu t'es retrouvé confronté à de la négo un peu qui tape, un peu dur, que ce soit vis-à-vis de toi-même, dans ta nouvelle orga, la vie, structurer l'entreprise et tout ça, et puis le monde extérieur de la tech, les levées de fonds, est-ce que tu as des actionnaires, est-ce que tu as des associés?
Oui. Je me suis retrouvée dans plusieurs dizaines de situations de négociation avec moi-même, avec d'autres. Probablement que la première grosse négociation, ça a été effectivement d'intégrer une associée, Perrine, qui a pris part à l'aventure assez tôt. Donc voilà, avec laquelle il a fallu effectivement déterminer le périmètre, les modalités de l'association, commencer à comprendre comment tout ça fonctionne d'un point de vue un peu juridique et technique. Quoi. Donc rentrer un peu dans le dur de l'entreprise et voilà, ses dessous. Effectivement, très tôt, on a dû faire entrer des business angels déjà, puis des fonds d'investissement. Et donc là, effectivement, on entre dans d'autres types de négociations où il faut valoriser l'entreprise, défendre la valeur que nous, on croit être la bonne, et voilà, la dilution qu'on est prête à accepter, etc., etc. Et oui, tu as raison aussi de noter que c'est une négociation avec soi. Je pense notamment en tant que mère de famille, probablement qu'il y a aussi des pères de famille qui sont dans cette situation aussi, de se dire bah, quelle place tout ça prend dans ma vie, quelle place ça laisse pour le reste. Donc c'est un numéro d'équilibriste compliqué à mener, ouais, clairement.
Oui, bien sûr. Et pour autant nécessaire, parce qu'on sent que tu en parles avec passion et que c'est une clé aussi de ton épanouissement et que ça, c'est pas négociable non plus, finalement, d'être épanoui dans la vie.
Oui, bah, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants, hein, finalement, d'être soi-même bien dans ses baskets, heureux, d'avoir le smile, d'avoir de l'énergie. Donc oui, c'est effectivement important pour moi de pouvoir m'y consacrer. Après, moi, j'aime aussi pouvoir passer du temps en famille, me sentir présente. Et c'est pas évident. Clairement, c'est vraiment pas évident parce que bah, entreprendre, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps mental aussi. Ouais. Enfin, même quand on n'est pas en train de travailler, on y pense, on réfléchit, on prend des notes, notre enfant nous parle et nous on est en train de penser à la grosse réunion énorme qu'on a la semaine prochaine. Enfin, donc voilà, c'est un numéro d'équilibriste.
Qui est épanouissant, toi, là, avec le recul, maintenant qu'il y a 4-5 années qui sont passées, tu...
Ah ben moi, je ne me verrais pas faire autre chose, clairement.
Ouais, tu as trouvé ta place, en fait, par tout ça.
C'est extrêmement fatigant, c'est... très intense émotionnellement, avec des déceptions, des grandes joies, des frustrations énormes, de la colère parfois parce que ça se passe pas comme on le voudrait ou parce qu'il y a un dysfonctionnement qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas anticipé. Beaucoup de peur aussi parce que on est encore à une phase où rien n'est stable, il faut encore stabiliser l'appareil. Mais malgré tout, oui, moi, je suis clairement à ma place.
Et on sent quand on t'écoute que tu es vraiment au cœur du réacteur.
Ah oui.
Et à la fois, il y a beaucoup de recul aussi et de mise en perspective. Et comment tu gères, toi, cette dualité dans ce rapport-là aux choses?
Bah, je ne sais plus qui m'avait donné ce conseil, mais je l'ai trouvé très juste et effectivement, j'essaie de me l'appliquer au quotidien. Pour réussir une entreprise, m'avait-on dit, mais c'est vrai que j'ai perdu la source. il faut à la fois voir le prochain petit pas et voir la vision à très long terme. Ouais. Et effectivement, j'essaye sans arrêt de jongler entre ces deux perspectives-là. Et voilà, je trouve que c'est... Effectivement, ça permet le prochain petit pas de se dire que c'est accessible, on est capable de le faire, c'est pas très loin, c'est pas très compliqué, mais de garder qu'en fait l'ambition elle est grande quoi.
Ouais, au quotidien on retombe sur l'histoire d'équilibre en fait, hein, c'est toujours le bon dosage là-dedans. Oui. Est-ce que tu dirais, Amélia, toi, que le fait d'être une jeune fille, une jeune femme dans cette aventure, il y a eu des choses où tu as dû négocier, je pense, alors c'est peut-être pas le cas, mais sur la légitimité, sur la crédibilité que tu pouvais avoir devant un board, devant Business Angels dont tu parlais, tu l'as ressenti ou ça n'a pas été un sujet pour toi ?
Alors moi, je pense que j'ai la grande chance d'être tombée sur des personnes, et notamment des hommes, mais aussi des femmes qui ont cru au projet, qui m'ont vraiment tendu la main, boosté pour que ça avance au mieux. Mais c'est plutôt avec moi-même, effectivement, qu'il a fallu négocier pour se dire, mais en fait, si t'es cap, bien sûr que non, c'est pas de l'imposture, voilà la preuve. Enfin, on est sans arrêt. Et je pense que peut-être que d'être une femme et d'avoir été élevée comme ça, ça nous rend encore plus, effectivement, tatillonne, exigeante. Mais nous, on est sans arrêt en train de mesurer la satisfaction, l'impact. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pour se rassurer. Enfin, pas que pour se rassurer, parce qu'on a envie d'être dans quelque chose de vraiment qualitatif. Mais oui, il y a ce sentiment de toujours être dans le jugement de soi et être assez exigeant, quoi.
Ouais. Qui est plutôt féminin.
Je pense. Oui. Oui, oui, clairement.
Alors, pour la petite anecdote, hein, tu sais, ici, on travaille avec beaucoup de négociatrices.
Ouais.
On fait également beaucoup de tests et on a des outils. Et on se rend compte que les femmes, en général, sont très fortes sur le débriefing.
D'accord.
Et tu vois, c'est assez intéressant parce que la France n'a pas trop cette culture du débriefing. On l'a plutôt quand les choses se passent mal ou on cherche à comprendre. Ouais. On l'a un peu moins quand les choses se passent bien. C'est et vrai. Les femmes, quand on les écoute et quand on monitore ces retours de négociation, etc., elles, un peu ce que tu décris, elles ont besoin de savoir quel impact ça a eu, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, comment ça aurait été si j'avais fait comme ci, comme ça. Toujours cette remise en cause qui est un grand levier de performance aussi, finalement, parce que c'est de là qu'on apprend et...
Moi, je crois beaucoup, et d'ailleurs, nous, on a un problème de mixité dans l'équipe parce qu'on n'est que des femmes. Mais oui, et j'appelle les hommes à candidater.
Ben voilà, l'appel est lancé.
Mais moi, je crois très fort à la complémentarité entre hommes et femmes. Hein. Et d'ailleurs, voilà, c'est McKinsey qui a fait cette étude, qui a fait beaucoup parler d'elle, qui montre que les entreprises les plus performantes sont celles qui ont la meilleure mixité, finalement.
Bien sûr. Et qui se comprend, on a chacun des choses complémentaires à apporter, à ajouter. Et alors là, quand tu es aujourd'hui, fin de l'année 2023, comment tu te projettes, toi, dans la suite ? Comment tu vois ça ?
Clairement, je pense que là, on atteint un niveau de maturité avec Colorie où on a une certaine notoriété dans notre secteur d'activité.
Bravo,
merci. Bah, ouais, j'avoue, c'est plaisant d'arriver dans des salons ou dans des événements où les gens connaissent Colorie. Voilà, viennent nous voir. Alors, bien sûr, c'est dans notre écosystème. Et, voilà, mais
il faut bien commencer aussi.
Oui, absolument. Mais malgré tout, on sent qu'il y a de ça. Et on a envie d'aller plus loin. On a envie aussi de répondre à une demande très forte qu'on a de la part de nos partenaires de travailler avec les plus grands. Mmh. Donc c'est pour ça que là qu'on a développé une nouvelle activité qui s'appelle la fresque des écrans, qui est destinée aux collégiens, aux lycéens pour appréhender tous ces sujets liés à l'éducation numérique, mais voilà, avec une réponse adaptée aux plus grands. Voilà, là on sent que c'est une phase d'accélération et on est en plein dedans, quoi. C'est...
Et tu dirais, toi, à titre, tu vois, personnel, à l'intérieur de toi, que tout ça, ça t'a donné de l'envergure, de l'épaisseur, où tu te sens encore toujours un peu sur le... Tu parlais d'imposture tout à l'heure, tu vois. Comment toi, tu le vis intérieurement, ce truc-là ?
Non, là, clairement, je pense avoir un peu dépassé ce stade, même si un peu des voix parfois persistantes, mais, mais là, je me sens beaucoup plus, à l'aise dans ce que je propose, dans la pertinence de ce que je propose, parce qu'on a eu mille fois la preuve que c'était juste. Non, là, je sens que, c'est... beaucoup plus confortable maintenant.
Bien sûr. Et c'est finalement l'expérience de cette réalité qui fait que tu disais, je suis à ma place et là, tu vas libérer toute la puissance de feu
absolument
qu'il y a derrière. Ouais. Et alors, quand tu te retournes sur ce parcours, tu nous dis, moi, j'ai grandi là et ça a été impactant. Il y a des choses qui ont été marquantes et qu'on voit où t'en es aujourd'hui. Quel regard, toi, tu portes sur tout ça ?
Alors, un regard satisfait, clairement, je me dis que j'ai quand même pas mal cheminé en toute humilité, que c'est pas mal. Malgré tout, je me dis que j'ai mis du temps, finalement, quand même, à oser. Que j'aurais pu y aller clairement plus tôt. Et aujourd'hui, je me sens dans une forme d'indépendance, de proaction, de facilité d'action que j'avais pas il y a 10 ans. Et c'est un peu dommage, j'aurais pu probablement... tenter des choses plus tôt.
C'est ce que tu te dis.
Mais bon, c'est pas, ça va, je vis bien avec ça.
Et là, je pense, je fais une aparté, mais Est-ce qu'il y a eu dans tout ce parcours, tu vois, des moments d'achoppement où tu vois ça a suscité des grosses remises en question profondes sur tes jobs salariés d'ailleurs ou dans l'expérience coloris, tu vois, qui sont vraiment venus te bousculer au fond de toi?
Oui, il y a plein de moments, clairement. C'est aussi un parcours avec des moments où ça fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait, des appels à projets où on a mis énormément d'énergie et finalement on gagne pas. Donc c'est savoir aussi accepter les échecs, les grosses remises en question et puis prendre le temps qu'il faut pour accepter, pour digérer et puis avancer quoi malgré tout.
Et là, alors, si tu devais faire passer un message, nous, tu sais, sur ADN Woman, qui est notre événement, et sur les négociatrices, on a beaucoup de jeunesse qui nous suit, qui nous écoute. Et moi, j'aime toujours demander aux invités, tu vois, si tu devais leur passer un message à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles, ce serait quoi ?
Ce serait probablement de prendre le temps de l'introspection pour vraiment se connaître, savoir ce dont elles ont envie et ne pas perdre de temps à essayer de répondre à des injonctions sociétales, à des normes auxquelles il faudrait se conformer. Non, vraiment essayer de comprendre ce pourquoi elles sont ici et d'y aller à fond, quoi.
Et ça, alors, ça, comment on fait, tu vois, pour rentrer dans cette phase d'introspection à 20 ou 25 ou 28 ans?
Je crois qu'il n'y a pas d'âge, hein, et véritablement. Alors, l'introspection, c'est des moments de silence. Ouais. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup que dans cette société très bruyante, très tumultueuse, où on est quand même dans une infobésité énorme, où on est sans arrêt sollicité, notifié, de temps en temps, il faut faire le silence et essayer de voir ce qu'il y a au fond de soi pour mieux se comprendre, mieux se connaître et faire les bons choix.
Merci Amélia.
Merci à toi.
C'était un nouvel épisode des négociatrices. Par leur générosité, leur partage et leur enthousiasme, chacune des invitées nous montre qu'une autre façon de faire et de vivre est possible. La négociation est à la portée de chacune. À nous de nous emparer de cet outil efficace. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toute notre actualité et nos informations sur www.adngroup.com.